Dans une ville comme Rennes, le projet d'un futur centre aqualudique prévu pour 2026 dans le quartier Villejean s'est accompagné d'une concertation citoyenne. Réunions en visio, recueil de 260 propositions et ateliers ont permis d'affiner le visage du futur équipement sportif et ludique. Les démarches participatives essaiment dans un tas de champs de la société sur l'environnement, avec la Convention citoyenne pour le climat, ça c'est à l'échelle de l'État, comme pour la Convention citoyenne plus récente sur la fin de vie. À hauteur de ville, on retrouve par exemple les budgets participatifs pour financer des projets d'habitants, là plutôt sur des questions d'aménagement. Les formes de démarches participatives atteignent un degré plus ou moins élevé d'implication du citoyen, ça va de la réunion publique à la consultation et jusqu'à la co-construction, avec souvent la critique faite aux institutions qui y recourent de jouer une participation en façade et d'en faire une stratégie de communication. Pour le sport, qui nous intéresse aujourd'hui, la prise en compte des voix citoyennes remonte au début des années 2000, plutôt dans les partis situés à gauche de l'échiquier politique. Les élus ne composent plus uniquement avec les présidents d'associations, on cherche en tout cas dans le discours à écouter la voix des licenciés et jusqu'aux pratiquants amateurs. Comment sont menées les démarches participatives dans le sport? À quel point les projets se construisent avec d'autres voies que celles des clubs et des fédérations sportives? Pourquoi certaines pratiques sont plus difficiles à capter par les élus? En quoi est-il difficile enfin de consulter les citoyens, notamment les non-sportifs, sur les projets de gros aménagements et événements sportifs? Élément de réponse dans un instant. Une chose est sûre, le sport est politique. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche, on reçoit Johan Reck. Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes maître de conférence en sociologie et en management du sport à l'université Rennes 2, également membre du laboratoire VIPS 2, VIPS 2 pour valeurs, innovation, politique, socialisation et sport. Et en 2021, vous avez publié un ouvrage aux presses universitaires de Rennes, son titre « Sport, démocratie participative et concertation, les évolutions des politiques sportives ». Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et juste à côté de Colette, on a Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, aussi professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, je vous laisse la parole.
De plus en plus souvent, l'État et les collectivités locales organisent des colloques, des états généraux, des groupes de réflexion pour associer les citoyens à la vie de la cité et pour mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. Le monde sportif, avec ses millions de licenciés et d'amateurs qui pratiquent hors club, est évidemment concerné. Et il doit s'adapter avec plus ou moins de réticence, voire de répugnance. Car ce mouvement de démocratie participative est relativement récent. Johan Reck, quand a-t-il été amorcé en France ?
Alors, je dirais que ce mouvement de mise en œuvre de démarches participatives, on va dire, dans le domaine du sport, commence à s'amorcer au tournant des années 2000. C'est pas spécifique au sport, mais il y a un basculement à partir des années 2000 avec une accélération des procédures, des démarches participatives qui ne sont pas forcément à la base centrées sur l'objet sport, mais qui vont parfois toucher et concerner cette dimension.
Et de quels dispositifs et de quels outils disposent les élus pour lancer ces démarches participatives concrètement?
Alors il y en a différents. Il y a toute une sorte de boîte à outils, on pourrait dire. Il y a tout un arsenal législatif aussi qui s'est mis en place. Et d'ailleurs dans l'ouvrage, mes collègues juristes expliquent, Katia Sontag et Frédéric Roux expliquent que en fait c'est pas le droit du sport qui a permis ou qui a facilité les démarches participatives. C'est plutôt ce qu'elles appellent les législations parallèles, c'est-à-dire l'évolution par exemple des politiques de la ville, des politiques environnementales, des politiques d'aménagement qui en fait vont déboucher sur des débats qui portent sur la question sportive. Et ça se met en place, par exemple la loi sur la démocratie de proximité avec les conseils de quartier, etc. C'est début des années 2000, des lois sur l'aménagement du territoire qui se mettent en place petit à petit et qui vont faciliter, on va dire, ces démarches ou ces dispositifs.
Christian Lebar.
Oui, ce qui est très passionnant quand on essaie de comparer les secteurs les uns aux autres, c'est-à-dire quand on met le sport en comparaison avec je sais pas, le développement économique, les transports, le scolaire, le social, etc., c'est qu'au fond, les politiques locales sportives, elles ont, pendant très longtemps, elles ont fonctionné sur un mode un peu routinier, c'est-à-dire qu'il y avait des associations. Voilà, les gens qui faisaient du sport, ils le faisaient dans le cadre d'associations. À la tête de ces associations, il y avait une petite aristocratie plus ou moins notabilisée de présidents d'associations. Et la discussion via l'adjoint au sport avec ces présidents d'associations tenait lieu de participation, de concertation, etc. Est-ce qu'on peut dire que ce modèle-là, qui a quand même fonctionné pendant plusieurs décennies, il s'est un peu grippé, c'est ça ?
Alors, il s'est à la fois grippé dans certains secteurs ou certains domaines sportifs, c'est-à-dire qu'il était, plus approprié. Je pense par exemple au domaine des sports de nature, où là, très clairement, la représentativité de ces pratiquants qui sont peu fédérés, peu regroupés en associations, etc., ces relations, elles étaient difficiles à mettre en place. Donc ce qui marchait pour les sports plus classiques, finalement, fonctionnait difficilement pour ces activités-là. Après, sur les politiques sportives plus classiques, il y a quand même eu une évolution et un besoin divers et variés. Ça peut être parfois les citoyens qui eux-mêmes font un peu davantage pression pour avoir un petit peu voix au chapitre et pouvoir interagir dans la mise en œuvre des politiques sportives. Il y a aussi parfois les élus qui ont une sensibilité nouvelle pour ces questions de participation au tournant, comme je disais, des années 2000. Maintenant, ça n'a pas forcément fondamentalement remis en cause le rôle des associations, c'est-à-dire que il y a plusieurs chapitres dans l'ouvrage qui explique très très bien que finalement la démocratie participative, elle renforce quand même finalement le rôle de ces notables ou de ces clubs qui finalement sont les seuls à participer à ces dispositifs, quoi.
Ça, ce qu'on constate aussi, c'est que d'une part, les associations sportives sont très inégalement démocratiques, voire très souvent très peu démocratiques, la direction est très peu renouvelée, etc. Et que par ailleurs, il y a aussi de plus en plus de pratiques sportives, pas seulement les sports de nature, mais y compris sur les sports classiques, foot, basket, etc. Il y a des pratiques sportives hors association aussi.
Tout à fait, ça c'est une évolution importante, c'est-à-dire que toute l'évolution des pratiques libres, autonomes, etc., qu'on peut retrouver dans les sports de nature, mais aussi en ville, avec le développement de la marche, de la course à pied, du street workout, etc., c'est-à-dire la musculation en ville, dans les parcs publics, etc. Tout ça, c'est des gens qui pratiquent sans forcément être organisés, structurés en organisation en tout cas. Et puis, se développent aussi des organisations complètement informelles avec des gens qui fonctionnent uniquement avec des groupes WhatsApp, Facebook, etc. pour se retrouver le dimanche pour courir ou autre. Et ça, forcément, ça transforme le rôle des interlocuteurs que peuvent avoir les administrations ou les élus, parce que je dirais qu'avant les années 2000, les relations étaient relativement simples, on allait frapper à la porte des présidents de clubs et les relations étaient faciles. Aujourd'hui, le paysage sportif a un petit peu éclaté, on va dire, et donc la démocratie participative se met en place à un moment aussi où ça répond à ce nouveau besoin aussi des pratiquants et donc des citoyens pratiquants, on va dire.
Est-ce que ce souci de démocratie participative, politiquement, c'est un marqueur des gouvernements et des municipalités de gauche ?
Alors, je dirais que dans les années 2000, c'était assez clair, ce marqueur-là, dans les politiques sportives, très clairement, c'est plutôt les municipalités de gauche. Dans l'ouvrage, on a l'exemple de la ville de Strasbourg, qui à l'époque était dirigée par le Parti Socialiste, en 2008, avec la reprise de la mairie. Donc, à la base, c'est plutôt des mairies de gauche qui ont impulsé ces démarches-là. C'est plutôt des élus de gauche qui avaient cette sensibilité-là pour les questions de participation. Ça a un petit peu évolué, je dirais qu'il y a eu un vrai clivage, c'est-à-dire que des élus de droite étaient très farouchement opposés pendant longtemps aux démarches participatives, même au terme même de participation. On m'a parfois reproché de vouloir impulser des démarches en me disant qu'on n'était pas chez Ségolène Royal. En fait, ils avaient vraiment l'idée que la participation, c'était Ségolène Royal qui l'importait, alors qu'en fait, elle n'a pas non plus inventé la démocratie participative, loin de là.
Mais c'était un de ses slogans de sa campagne présidentielle.
Tout à fait, la campagne de 2007.
La politique doit partir de la réalité de la vie des gens, être attentive aux leçons que le peuple donne, comprendre que le citoyen est le mieux placé pour faire le diagnostic de sa vie et pour dire au nom de quelles valeurs la gauche doit agir. Et de tout cela, de ces messages de détresse mais aussi d'espérance, j'ai retiré le pacte présidentiel que je vous propose aujourd'hui.
Archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, un souvenir de la campagne présidentielle de 2007. Dans cette vidéo, la candidate socialiste Ségolène Royal présente son programme.
Donc, c'est vrai que les élus de droite avaient une vision assez négative de la question de la participation et considéraient que finalement, les élus pouvaient incarner les citoyens pendant toute la durée de leur mandat et n'avaient pas forcément à remettre en cause les décisions ou à faire participer les citoyens, en tout cas en cours de mandat. Quoi. Ça, je dirais que c'est plus nuancé, j'ai l'impression que c'est plus nuancé aujourd'hui. C'est un marqueur qui est moins tranché. Quoi.
Dans votre livre, vos confrères détaillent deux opérations, l'une à Brest pour le projet le projet sportif territorial de Brest, mairie socialiste, et celui de Strasbourg avec les états généraux. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ces deux exemples, vos confrères sociologues, je crois, chercheurs, détaillent bien les enjeux, les déconvenues, les ratages et les succès de ces opérations de démocratie participative. Je voudrais bien qu'on aborde les différents acteurs concernés et peut-être en premier lieu les élus. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Quel intérêt à se lancer dans une concertation grand public? Pourquoi est-ce que les élus font ça?
Alors, les motivations sont assez variées, je dirais. Parfois, il y a très clairement des stratégies de communication. Ça, c'est assez évident et assez marqué. Parfois, il y a des vraies volontés de faire évoluer les politiques sportives. Typiquement, l'exemple qui est pris à Strasbourg dans l'ouvrage, la nouvelle municipalité arrive en 2008. Il y a un besoin de remettre à plat la politique sportive dans la ville. Et ils vont aller chercher des chercheurs en sciences sociales, ils ont cette sensibilité-là, ils l'expliquent dans le chapitre, hein, que le directeur des sports vient d'un milieu universitaire, il a fait un master en géographie, donc il a la sensibilité pour le monde universitaire, il va plutôt chercher des laboratoires en sciences sociales plutôt qu'un cabinet privé pour mener la concertation. Donc là, il y a une volonté d'impliquer des chercheurs avec une forme parfois d'instrumentalisation qui est assez bien expliquée aussi. On pourrait y revenir, mais l'intérêt des élus, ça peut être aussi de mobiliser post-élection des groupes, le monde associatif qui parfois a soutenu ou pas la candidature, avec une volonté vraiment de remettre à plat et de redéfinir une politique sportive qui n'a pas été la leur sur le mandat précédent. Donc il y a parfois cet intérêt-là. Quoi.
Et alors du côté des citoyens, qui participe à ces réunions publiques et comment ça se passe? Parce que là, dans le livre, il y a des exemples extrêmement intéressants et éloquents. Mais donc, qui est convié et comment ça se passe?
Alors là, pareil, d'un dispositif à l'autre, dans la façon dont se met en place la concertation ou dans la façon dont se met en place les dispositifs, c'est très variable. On retrouve quasiment systématiquement le monde associatif, le milieu associatif, qui généralement est surreprésenté. C'est-à-dire qu'une des difficultés ou un des écueils, on pourrait dire, de la démocratie participative dans le domaine du sport, c'est la difficulté à sortir de ce qu'on appelle une démocratie des porte-parole. C'est-à-dire à toucher des gens qui finalement n'ont pas de porte-parole ou sont des simples citoyens mais ne représentent pas d'autres personnes. Et derrière, il y a toute une stratégie de communication, tout un besoin de communication pour faire connaître ces dispositifs-là, qui est parfois plus ou moins bien fait, plus ou moins bien mis en avant, et parfois, sous couvert de la démocratie participative, on se contente finalement d'inviter uniquement les présidents de clubs de façon assez classique. Donc ça, c'est un premier problème. Ce qu'on observe quand même dans les démarches ou dans les dispositifs, c'est la faible représentation des classes les plus populaires, très clairement. On a du mal à sortir des classes moyennes, voire des classes privilégiées, qui souvent sont à la tête des clubs.
Des clubs, oui.
Moi, pour tous les dispositifs que j'ai pu soit mettre en place en tant que chercheur, soit observer avec mon rôle de chercheur.
Par exemple, où
Alors, j'en ai étudié plusieurs à Grenoble, notamment, à Rennes. J'en étudie également, là encore, en ce moment, je pourrais y revenir. Et puis, dans une station balnéaire du Morbihan, que j'ai très bien étudié pendant plusieurs années.
Où ça ?
Dans le Morbihan, sur la presqu'île de Quiberon.
D'accord.
Et donc, ce qu'on observe, c'est souvent une sous-représentation des femmes. Donc, la variable genre, c'est aussi une variable qui est importante, parce que souvent, on observe que les hommes à la fois monopolisent la parole, mais sont aussi très clairement surreprésentés dans ce genre de réunion. Quoi.
Ce qui m'a frappé dans l'exemple de Strasbourg, mais j'imagine que c'est pas typiquement alsacien, c'est que il y a eu quelques affiches de placardées dans la ville, disons, pour alerter le grand public. En revanche, tous les présidents de club ont reçu une invitation nominative. Ça, c'est pas rien. Que dans la salle, et l'élu au sport et le directeur des services techniques, interpellés par leur nom, voire par leur prénom, c'est notable. Et que le Pékin lambda, lui, vous êtes qui ? Présentez-vous, enfin presque.
Oui, oui, tout à fait.
Et ça, c'est impossible, ça.
Oui, oui, ça, c'est toujours ce qui est assez compliqué. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'étudier la façon dont les dispositifs se mettent en place aussi dans leur spatialité, c'est-à-dire la façon dont on organise la salle, la façon dont on va ensuite répartir la parole, qui prend la parole. Dans le cas de Strasbourg, c'est aussi intéressant. Il montre très bien que la parole de l'élu plus du directeur des sports, c'est pratiquement les trois quarts du temps de débat qui est monopolisé. En fait,
72% du temps.
Donc au final, le côté participatif, il est très clairement en retrait. Donc oui, ça, tout à fait. Et il y a vraiment des stratégies de à la fois de qualification, mais aussi de disqualification de certaines personnes qui voudraient prendre la parole, mais qui sont assez vite disqualifiées parce que soit elles ont des difficultés à s'exprimer, soit elles sont pas connues des élus ou des techniciens, etc. Et ça, effectivement, c'est un des travers de la façon dont peut se mettre en place, parfois, certains dispositifs.
C'est un piège.
Tout à fait, oui, c'est un piège.
Christian Lebar.
Oui, ce qui est passionnant, c'est qu'en réalité, la place, hein, vous dites très bien, la place occupée par les présidents de club, elle a assez considérablement évolué, puisque jusqu'à il y a une époque récente, ces gens-là pouvaient dire « la démocratie participative, c'est nous, puisque nous discutons avec les adjoints, nous sommes la société civile ». Donc voilà, le dialogue très, très, très fermé entre des élus et des présidents de club pouvait tenir lieu de démocratie participative jusqu'aux années 2000. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ces gens-là sont plutôt perçus comme des obstacles qu'il faudrait contourner. Et ce que vous disiez tout à l'heure me semble très intéressant, c'est-à-dire que c'est comme par hasard à l'occasion d'une alternance électorale, qu'on va tenter de bousculer un petit peu le jeu, parce qu'on sait bien que les présidents d'association, eux, y restent, hein, malgré les alternances électorales, souvent.
Bon courage.
Le changement était peut-être souhaité par plus qu'on imaginait. Il y a un bon équilibre entre pro et amateur, donc je suis vraiment satisfait, parce que le score est large. Donc toutes les familles ont voté de façon positive.
Extrait d'un reportage de l'agence France Presse qui date de 2011, Noël Le Graët vient de remporter la présidence de la Fédération Française de Football. Il y restera 4 mandats, ou presque, avant d'être finalement mis en retrait récemment de son poste, et ce suite à de nombreuses polémiques et notamment des accusations de harcèlement sexuel.
Et donc c'est l'idée d'aller chercher de la légitimité plutôt du côté des usagers que du côté des présidents dont on pressent qu'ils sont souvent clientélisés par les élus et donc ils ont souvent parti lié avec l'équipe à laquelle on s'est opposé. Donc la dimension de clientélisme, il me semble qu'elle est aussi importante.
Oui, 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 tout à fait. La dimension clientéliste est importante et ça peut être aussi une stratégie de la part des élus de mettre en place des démarches participatives qui finalement permettrait de, pour le coup, parfois de mettre à distance les associations en ouvrant plus largement finalement les dispositifs, justement,
de les contourner
et parfois justement le monde associatif ou ce qu'on appelle le mouvement sportif a pas toujours vu d'un très bon œil l'arrivée des démarches participatives parce que forcément ça remet en cause leur ouais. rôle, leur place et leur légitimité finalement dans le champ sportif localement quoi. Donc ça c'est une évolution qui finalement
oui, quand on est porte-parole, la démocratie participative, on n'aime pas ça. C'est vrai dans tous les univers sociaux.
Ouais. C'est ça, tout à fait. Mais après, on voit bien que malgré ça, ils arrivent quand même à contourner les dispositifs et à se rendre dominant au sein des dispositifs et à se rendre incontournable au sein des dispositifs malgré tout. Quoi.
Ouais. Ils occupent le terrain.
C'est ça.
On a vu l'aspect un peu du côté des élus et du côté des citoyens. Et alors du côté des chercheurs, quand des labos, des équipes sont conviées, quelle juste place occuper ? Est-ce qu'on craint d'être manipulé par les élus ? Est-ce qu'on est le porte-parole ? Est-ce qu'on est l'observateur ? Est-ce qu'on est le lanceur de débat, voire lanceur d'alerte ? Est-ce qu'on est le grain de sable ?
C'est toute la difficulté en fait. Pendant longtemps, au départ, les laboratoires en sciences sociales du sport ont plutôt été sollicités pour analyser les politiques sportives. Donc il y avait déjà des habitudes, on va dire, de travailler avec les municipalités, avec les villes dans lesquelles les laboratoires étaient implantés pour faire de l'analyse des politiques sportives, faire des retours sur les évolutions des pratiques sportives, etc. au sein de la ville. Et puis petit à petit, effectivement, les chercheurs ont commencé à essayer d'étudier ces dispositifs. Et l'expertise avançant, on les a ensuite sollicités pour pas uniquement étudier les dispositifs, mais parfois les mettre en œuvre, les impulser, parfois animer les débats.
Et cautionner aussi.
Et du coup, parfois les cautionner avec toute la difficulté justement de la prise de recul qui est nécessaire aux chercheurs pour ne pas être jugé parti, ne pas être instrumentalisé par les élus, garder, on va dire, une liberté de ton et de parole dans ces instants, dans ces réunions, etc. Donc la place du chercheur, elle est assez compliquée. Moi, je trouve qu'elle a pas mal évolué ces dernières années.
Concrètement, là, parce que là, c'était des vœux pieux, mais comment vous faites ?
Oui, alors moi, j'ai été amené à faire les deux, c'est-à-dire que je suis parfois amené à être uniquement observateur. Donc, par exemple, en ce moment, sur Rennes et Rennes Métropole, j'observe toute la démarche participative, ce que j'appellerais du design participatif autour de la mise en place du sentier métropolitain. Donc, ça va être un grand sentier, théoriquement un sentier de grande randonnée, mais qui va traverser la métropole. Et donc, Rennes Métropole, avec l'agence d'urbanisme de Rennes, a mis en place toute une démarche participative pour impliquer les citoyens, les associations, etc. Okay. Dans la démarche. Donc là, je suis observateur, donc très clairement, je participe au débat en tant que simple citoyen, on m'invite à échanger, mais je suis vraiment observateur. Parfois, à l'inverse, j'ai été amené à étudier les politiques sportives et à devoir mettre en œuvre des débats et des dispositifs participatifs. Donc là, j'utilise plutôt mes connaissances des dispositifs et justement des travers des dispositifs qu'on évoquait tout à l'heure sur la question de la qualification, de la disqualification, de la distribution de la parole, du respect du temps de parole, etc. Justement pour essayer d'avoir un débat le plus équilibré possible, le plus ouvert possible. Je travaille en amont pour justement qu'on travaille sur la communication pour qu'elle soit la plus ouverte possible, qu'on ne soit pas uniquement sur les réseaux classiques, sportifs, organisations sportives, mais qu'on touche les citoyens et les pratiquants. Donc j'essaye d'impulser ça. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ça.
C'est sportif par moment,
oui,
j'imagine.
Tout à fait.
Christian.
Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi ajouter une autre tâche dévolue aux sciences sociales ? C'est qu'à partir du moment où les pratiques sportives se font moins que par le passé sous la discipline associative, pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire à la fois c'est les sports nature, mais c'est aussi les pratiques sportives urbaines en dehors des clous associatifs, si j'ose dire, forcément ça plonge les élus dans un certain désarroi, parce qu'ils sont face à des pratiques qui sont atomisées, individualisées. Voilà, il y a des gens qui font du jogging, il y a des gens qui font du roller, il y a des matchs de basket qui s'improvisent, mais il n'y a pas d'interlocuteur. Donc peut-être qu'on demande aussi aux chercheurs en sciences sociales de faire l'analyse de ces pratiques-là, voire de parler à la place de ces publics un peu ce que les élus détestent, c'est-à-dire des publics insaisissables.
Ouais, c'est un peu la difficulté. Mais à mon sens, c'est quand même l'intérêt des démarches participatives quand elles sont mises en œuvre correctement, c'est-à-dire d'arriver justement à toucher ces publics un peu insaisissables qui peuvent vraiment avoir une utilité dans la mise en œuvre des politiques sportives. Parce que je pense par exemple à des publics qui ont été longtemps insaisissables, comme le public des skateurs, qui étaient historiquement pas ou peu organisés, public jeune, donc les questions de politique, ils voyaient ça d'assez loin, etc. Et en fait, on se rend compte que quand on arrive à les impliquer dans les démarches participatives, en fait, c'est très intéressant parce qu'ils ont une expertise, une connaissance, des besoins en termes, par exemple, d'équipements sportifs, entre autres, qui permet en fait de prendre les bonnes décisions aux élus et d'éviter d'investir dans des mauvais équipements ou d'avoir une politique uniquement répressive, alors qu'en fait, eux, la ville, les places du centre-ville, c'est leur terrain de
parler.
Voilà, mais il faut arriver à les faire parler, il faut arriver à trouver les bons dispositifs. Et là, pour le coup, peut-être que les chercheurs en sciences sociales peuvent créer du lien, c'est-à-dire déjà, ils apportent une connaissance sur ces publics-là, et puis ensuite, ils arrivent à les capter d'une manière ou d'une autre et à les impliquer petit à petit dans des démarches de concertation. Et ça peut être intéressant, quoi.
On fait une pause musicale. Le groupe Hippocampe Fou nous interprète Nul en sport.
Taxi! Taxi! Oh! Hé! Taxi! Oh, enfoiré, putain! Oh non, le bus! Le bus! Le bus, attendez! Attendez! Oh. Je vais pas rentrer à pied quand même!
J'ai grossi, j'ai de la cellulite. Faut que je ressuscite, mais j'suis pas très motivé. J'ai bien trop peur des fractures, j'suis plus vraiment filiforme. J'pourrais faire un infarctus en jouant au mini-golf.
Il est où ton jogging?
J'aurais bien aimé pratiquer la capoeira. Le vélo sans les mains, mais le sport et moi ça fait 3. Vu qu'en EPS je n'avais pas la moyenne, je ne pourrais jamais surfer de vagues hawaïennes. Au foot à la récré, j'étais le déchet de l'équipe. J'étais celui qu'on choisissait en dernier juste après les filles. On m'appelait le défonceur, je massacrais les attaquants en les taclant. On massacrait meilleur buteur contre son camp. J'étais une calamité sur le terrain. Et ce bien avant de teaser et de fumer des joints. J'ai toujours eu du mal à courir en serrant les poings. Donc au relais, je faisais souvent tomber le témoin. Au ping-pong, je perdais tous les matchs. À la suite, je commençais table 1, je finissais à la 8. À l'équitation, j'aimais juste les balades. Je n'ai jamais atteint le sommet des murs d'escalade. J'ai fait du basket aussi. Au bout d'une année, j'ai bien failli réussir à mettre un panier. À la natation, j'aimais faire de l'apnée, plonger comme un con, aller sous l'eau pour mater. Au judo, j'avais pas d'amis, mais je racontais ma vie, immobilisé sur le tatami. Même au jeu de sport, sur mon Atari, j'étais tout moisi. Je me suis fait un hématome en jouant, hein, oui.
Elle est pas froide, je te dis, elle est pas froide.
Trop doux pour la boxe, trop hétéro pour la lutte, trop fragile pour le rugby et trop frileux pour la luge. Trop mou pour la course, trop lent pour l'escrime. Debout sur la poutre à la gym, j'avais le vertige. Au moindre effort physique, j'ai des courbatures. Faudrait que j'arrête de rester caché sous ma couverture. On me verra jamais au JO courir à toute allure, à part en live pendant la cérémonie d'ouverture.
Tu vas taper dans ce ballon? C'est pas par là. T'es mauvais.
Vous écoutez Chercheurs en ville sur Canal B, une émission consacrée à la recherche universitaire, et aujourd'hui pendant une heure, on reçoit Johan Reck, maître de conférences en sociologie et management du sport à l'université Rennes 2, membre également du laboratoire VIPS 2 pour valeurs, innovation, politique, socialisation et sport. En première partie d'émission, on a parlé de l'arrivée des démarches participatives dans le champ du sport, également des relations entre élus, présidents de clubs et chercheurs. À présent, il va être question des pratiques sportives qui ont parfois du mal à être saisies par les décideurs politiques et ce que peut pourtant permettre la participation des sportifs nature, des skateurs aussi. Il sera enfin question de la prise en compte du public sur des projets, des gros projets d'équipement ou d'événements.
Johan Reck, vous êtes spécialiste des sports de nature. Dites-nous, donnez quelques exemples de sports de nature et on va y revenir sur comment la démocratie participative est parfois un peu plus compliqué pour ces sports-là que pour des sports historiquement.
Alors, Les sports de nature sont en fait des sports d'extérieur. Les anglo-saxons parlent d'outdoor recreation. Donc ça recouvre différents types d'activités qui peuvent se dérouler en milieu aérien, terrestre, nautique, voire souterrain. Donc ça va être des activités comme le VTT, le parapente, la marche, le kayak, la voile, le surf, etc. quoi. Et donc c'est des activités qui, en fait, dans l'histoire des sports, sont des activités relativement récentes, en tout cas pour certaines, c'est-à-dire qui ont commencé à se développer ou tout simplement à être inventées au tournant des années 70, 80, voire des activités encore plus récentes. Donc ce sont des activités assez récentes qui se pratiquent en extérieur, et une des caractéristiques de ces activités, c'est que finalement les pratiquants ont peu besoin d'être structurés en association pour pouvoir pratiquer. Donc ça c'est une grosse caractéristique, et donc les chiffres sont toujours à prendre avec un petit peu de pincette, mais on considère que d'après les chiffres ministériels, qu'on a à peu près un quart des pratiquants qui seraient fédérés. Donc c'est très peu. Par contre, ce qu'on observe depuis les années 80, c'est un engouement très fort pour ces activités-là. Et dans toutes les enquêtes ministérielles qui, grosso modo, se mettent en place tous les 10 ans, on a très clairement une augmentation du nombre de pratiquants. C'est-à-dire que les Français sont de plus en plus férus et intéressés par ces activités d'extérieur. Et la période de Covid l'a bien démontré, quoi.
Est-ce qu'on peut dire aussi que ce sont des sports potentiellement spectaculaires pour beaucoup et potentiellement dangereux? Donc il y a une part d'accident qui est peut-être ou pas plus importante que dans des sports plus classiques. Et d'autre part, il n'y a pas forcément besoin d'équipement de type gymnase bien répertorié. Et donc ça peut se déployer dans tout l'espace public, d'où conflit avec des riverains, des associations écolo, etc.
Ouais, alors sur la question du risque, je dirais qu'il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui peuvent être très, très risquées, très très pointues, par exemple comme le base jump, du saut en parachute depuis des falaises ou des ponts.
Donc sans là, parachute quand même.
Avec parachute, mais avec une seule chance qu'il s'ouvre. Donc vraiment une grosse prise de risque pour les pratiquants. Et puis dans les sports de nature, il y a également des activités de marche, de randonnée, marche nordique, etc. Donc on est sur des activités qui peuvent être beaucoup plus populaires et beaucoup plus grand public. Dans la catégorie sport de nature, on retrouve un petit peu de tout. Après, c'est vrai que c'est des activités qui théoriquement ne demandent pas d'équipement dédié, sauf que l'arrivée soudaine de pratiquants dans le milieu naturel, ça crée des interactions qui peuvent être problématiques, voire conflictuelles, avec des acteurs historiques de ces milieux. Ça peut être les chasseurs par endroit, ça peut être les agriculteurs, ça peut être les pêcheurs, ça peut être le pastoralisme, etc.
Les chasseurs, parce qu'ils disent, par exemple, que deltaplane et parapente font fuir le gibier, c'est ça?
Alors oui, par exemple, sur les aires de décollage ou d'atterrissage, les interactions peuvent être problématiques avec les vététistes, avec les randonneurs. On a eu là récemment tout le débat sur les évolutions de la loi sur la chasse. Est-ce qu'on doit interdire la chasse le dimanche pour permettre aux gens de plus facilement avoir accès au milieu naturel et pouvoir randonner? Donc en fait, les sports de nature ne se déroulent pas dans un cadre très très strict au sens qu'on a l'habitude de l'entendre, mais par contre, leur intervention dans le milieu naturel crée des interactions avec des catégories d'acteurs qui, eux, ne voient pas forcément d'un bon œil l'arrivée de ces pratiques et de ces pratiquants. D'où l'intérêt des démarches participatives qui ont permis de mettre autour de la table des gens qui n'avaient pas l'habitude ou n'ont pas l'habitude de beaucoup se parler parce qu'ils ne viennent pas du même milieu, ne pratiquent pas les mêmes types de pratiques, etc. quoi.
À l'inverse, la rencontre, tant mieux, ça peut ouvrir des portes, ça peut faire consensus, c'est une vision extrêmement et tant mieux positive et dynamique des choses, mais est-ce que de mettre plein d'acteurs, les chasseurs, les parapentistes, les élus et tout, les sapeurs-pompiers autour de la table, est-ce qu'au contraire ça peut faire émerger d'autres problèmes ou cristalliser des...
Alors ça peut faire émerger des problèmes, mais moi j'ai plutôt tendance à te dire qu'en général, on voit les grosses situations de blocage, c'est-à-dire les gros conflits sur certains sites ou certains, ce qu'on appelle des spots, c'est-à-dire des lieux vraiment emblématiques d'activité. En général, quand les collectivités ne prennent pas la mesure de soit des conflits qui émergent, soit de l'ampleur de telle ou telle activité, quand les démarches de concertation ne sont pas mises en place suffisamment tôt, en général, on arrive à des niveaux de conflit tels que parfois ça peut même en devenir dangereux, quoi. Donc moi je dirais qu'il y a plutôt intérêt à anticiper, on va dire, et à mettre les gens autour de la table pour soit répartir les pratiques, en fait les cadrer derrière. Il y a tout ensuite une organisation qui se met en place avec parfois des horaires de pratique, des lieux de pratique qui vont être précisés, etc. Il y a tout un cadrage qui se met en place et qui permet un fonctionnement collectif plus apaisé, quoi.
Oui, avec comme limite peut-être que ce qui caractérise ces pratiques, c'est d'une part qu'elles sont très individualisées et d'autre part qu'elles sont incroyablement référées à l'idée de liberté. Hein, je pense à toutes ces pratiques un peu de voler comme un oiseau, etc. Bon, il y a derrière ça un imaginaire très fort de la fantaisie, de la liberté. Et du coup, mettre les gens autour de la table, ça doit pas être facile. Alors, ce sont des milieux qui fonctionnent aussi par réseau, j'imagine, mais peut-être pas réseau associatif, réseau un peu informel. Est-ce qu'ils sont, encore une fois, parce qu'il s'agit de réguler ces pratiques, est-ce qu'il y a des points d'accroche quand même ?
Oui, en fait, petit à petit, on y arrive. Effectivement, pendant longtemps, il y a eu tout cet imaginaire des pratiques libres, autonomes, à la limite de la pratique un peu anarchique, on va dire. Je crois qu'aujourd'hui, les pratiquants ont un peu évolué quand même par rapport à ça et se rendent bien compte que finalement, s'ils veulent pérenniser leur lieu de pratique, à un moment donné, il faut qu'ils s'impliquent aussi dans leur gestion. Et finalement, ils préfèrent participer à ces démarches participatives. Ça leur permet d'assurer en fait une continuité de leur pratique sur le long terme et d'éviter par exemple des interdictions de pratique, des interdictions de sites, etc.
Et ça leur permet aussi de passer à la formation des jeunes, peut-être aussi à des formats plus institutionnels.
Aussi, tout à fait. Et finalement, petit à petit, ces activités-là, on se rend compte qu'elles ont tendance à se structurer un petit peu comme les activités sportives plus classiques, c'est-à-dire qu'on revient sur le modèle associatif, plus fédéral d'une certaine façon. Par exemple, l'escalade, on a très clairement vu cette évolution-là, quoi. Pendant très très longtemps, les grimpeurs étaient assez peu organisés, assez peu fédérés, etc. Et puis, sauf que quand il y a des interdictions de falaises, de sites, etc., ils se rendent compte que finalement, avoir des interlocuteurs vis-à-vis des municipalités, c'est pas inintéressant pour pouvoir aller dialoguer avec elles et ainsi de suite, quoi. Et après, moi par exemple, j'ai étudié des sites sur le massif de la Chartreuse, où là, sur le massif de la Chartreuse, le chargé de mission a vraiment mis en place des groupes de travail par activité, c'est-à-dire un groupe de travail parapente, un groupe de travail escalade, etc. Et les démarches participatives, elles visaient à la fois le milieu associatif, mais elles cherchaient aussi à impliquer les professionnels, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent de ces activités-là qu'il faut impliquer, les guides de haute montagne, les moniteurs, etc. Et puis des grimpeurs ou des équipeurs emblématiques, c'est-à-dire des gens qui sont reconnus du milieu, sont pas forcément présidents d'une asso ou quoi, mais sont reconnus parce que historiquement l'escalade, c'est eux dans le massif de la Chartreuse.
Par parenthèse, c'est exactement la même chose dans le monde culturel. Hein, moi, j'ai lu il n'y a pas très longtemps une thèse sur les politiques municipales à destination des cultures urbaines, des cultures hip-hop. C'est exactement pareil. C'est, on a des pratiques qui naissent en dehors des clous, très individualisées, etc. Et puis, il y a un moment où il y a un besoin de régulation des deux côtés et ça se termine par un équipement dédié aux cultures, aux cultures hip-hop. Donc c'est la même logique d'intégration au secteur, quoi.
Oui, tout à fait. Hein. Sur les pratiques urbaines, on observe un peu les mêmes trajectoires. J'en parlais tout à l'heure, les skateurs qui pendant très longtemps ne voulaient pas entendre parler d'associations, de structures cadrées, d'entraînement, de clubs, etc. 20 ou 30 ans plus tard, on voit bien que ce modèle-là finalement s'impose un petit peu par la force des choses, quoi.
Et quand vous parliez de partage de l'espace Arène Place Hoche, où il y a beaucoup de skateurs, de mémoire, au début c'était absolument libre. Il y avait des bouquinistes à l'époque, maintenant qui sont Place Sainte-Anne. Mais il y avait donc des bouquinistes, des skateurs, les étudiants qui sortaient des cours, des enfants, parce que c'est un joli terrain de jeu aussi pour enfants. Je ne sais plus de quand ça date, mais depuis, il y a des jours et des horaires pour partager l'espace.
Ouais.
En clair, on ne peut pas faire du roller.
Oui, tout, Tout à fait. Alors, la place Hoche à Rennes, effectivement, c'est un bon exemple, qui était un peu un haut lieu du skate à Rennes, et qui a été finalement régulé, pas complètement interdit, contrairement à d'autres municipalités qui ont parfois complètement interdit leur place publique, et avec des démarches de répression assez fortes, hein, vis-à-vis des jeunes ou des pratiquants. Là, les démarches participatives, c'est pas évident de faire participer ce type de public, mais ça a vraiment un intérêt pour mettre en place des équipements qui soient adaptés, parce que aller mettre des équipements sportifs en périphérie de ville, etc., ça n'a pas un intérêt pour les pratiquants qui, eux, veulent utiliser le mobilier urbain, veulent utiliser l'espace urbain, etc., quoi. Et là, y a quand même des municipalités qui évoluent aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'elles se rendent compte que finalement, les places publiques, ça devient aussi des hauts lieux pour ces activités-là, que les villes, elles sont connues parfois internationalement. Parce qu'on les a vus dans des vidéos, etc. Et que finalement, ça a aussi un intérêt parfois d'un point de vue touristique ou autre, quoi. Donc là, il y a quand même une évolution. J'ai l'impression que la répression est un petit peu moins forte sur ces sports-là que ce qui a pu être le cas il y a quelques années.
Plein les yeux, septembre 2017. Paris s'offre une fête et un refrain remis au goût du jour. Pas celui-là, non. Celui-ci. Un petit air joué à Lima, au Pérou, et c'est pas de la flûte.
Paris 24, Los Angeles 28.
La chanson du succès. Enfin, Paris à les Jeux.
Vous venez d'entendre l'extrait d'un reportage diffusé sur France TV Sport en 2017, suite à l'annonce cette même année de l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à la ville de Paris.
Johan Reck, on a vu avec vous comment ces politiques de démocratie participative évoluaient sur le plan municipal, régional. Mais à une plus grande échelle, est-ce qu'il y a en France des grandes consultations, par exemple de type référendum, pour un grand stade ou ce genre de choses, ou là on est concerné, la France est concernée par les Jeux Olympiques et par une Coupe du Monde de rugby l'an prochain. On ne nous a pas demandé notre avis.
Oui, tout à fait. Alors ça, effectivement, c'est un vrai sujet. À quel niveau on doit mettre en place des démarches participatives, à quel échelon, quel est le bon échelon pour lancer ces démarches. Il y aurait deux choses. La première chose, c'est qu'il existe des débats participatifs à l'échelle nationale, ou en tout cas sur des grands projets structurants. Je pense notamment à la Commission nationale du débat public, qui a vraiment pour vocation de mettre en place des débats sur des grands projets structurants d'aménagement. Dans le domaine du sport, il y en a eu. Il y a eu par exemple le projet de stade de rugby à Ris-Orangis. L'idée, c'était de créer un peu un peu l'équivalent du stade de France. Donc là, budget à plusieurs millions d'euros, etc. Donc là, débat public, le projet n'a pas vu le jour. Tous les grands stades qui se créent aujourd'hui passent pratiquement tous maintenant aujourd'hui par la Commission nationale des débats publics. Il y a eu la rénovation de Roland-Garros, le stade de l'OL, etc., etc. Donc là, on a des instances qui se mettent en place et qui permettent de débattre de ces sujets-là. Maintenant, la question des événements sportifs, effectivement, c'est un vrai sujet, en tout cas des grands événements sportifs, hein, grands événements sportifs, notamment internationaux. Là, très clairement, la question du référendum pourrait se poser. D'autres pays le font. Je pense par exemple à la Suisse, qui a une autre culture vis-à-vis du référendum et notamment de ce qu'ils appellent les votations. Ils ont, dans le canton du Valais, demandé à la population, pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2026 à Sion, ils ont demandé l'avis de la population. La population a dit non. Le projet a été enterré. Très clairement, la question s'est à un moment donné posée pour les JO de Paris. Hein. Ça ne s'est pas fait. Je pense qu'on a du mal à mettre en démocratie, ou en tout cas à mettre en débat public, la question des grands événements sportifs. Parce qu'on pense que, de fait, ça a des retombées, que, de fait, il y a un héritage. Or, ça reste à démontrer, et puis ça reste un sujet à débattre démocratiquement. Et en France, on a une difficulté à mettre en place des débats autour de ces sujets-là. Donc, très clairement, le référendum, il y a la possibilité aussi de faire des référendums locaux maintenant, la loi le permet. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de référendum local sur une question sportive. Et alors national, bon, le référendum, il n'est pas souvent utilisé.
Christian Lebar.
Oui, alors ce qui est très passionnant d'un point de vue de sciences politiques, c'est que la démocratie participative, en fait, elle convoque toujours en priorité des usagers et rarement des citoyens. C'est-à-dire que, voilà, pour les politiques culturelles... Alors, il faut raisonner en termes de cercle concentrique. C'est-à-dire, on essaie de passer du premier cercle des présidents d'associations au deuxième cercle de ceux qui font du sport ou qui fréquentent les équipements culturels. Mais évidemment, il y a un troisième cercle dont on ne parle jamais, qui est celui des citoyens... qui ne font pas de sport, mais enfin qui payent des impôts quand même, voire qui sont ennemis du sport. Et de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant de voir, dans la suite de ce que vous disiez tout à l'heure, des formes de contestation aujourd'hui du sport. Le sport n'est plus laissé aux sportifs. Donc contestation du financement du sport, contestation de l'organisation des grands événements. Ce qui s'est passé sur les prises de parole d'élus contre le Tour de France, par exemple, contre le fait d'accueillir une étape du Tour de France, et de ce point de vue-là, assez symptomatique. Donc voilà, oui, la démocratie participative, ça supposerait aussi que les non-sportifs donnent leur avis sur les équipements, sur les événements, sur la politique sportive.
Oui, oui, tout à fait. Surtout que ces grands événements sportifs dépassent largement le cadre du sport, en fait. Parce que derrière, c'est la question de l'aménagement du territoire, c'est la question de l'emploi, c'est plein de choses, en fait, qui se posent avec des répercussions à très long terme. Parce que, par exemple, on sait très bien qu'à partir du moment où un pays obtient les Jeux Olympiques, il va y avoir dans la continuité un grand nombre de grands événements que le pays va obtenir. Et c'est ce qui se passe en France. On voit bien, il y a un enchaînement, Coupe du Monde de rugby en 2023, Jeux Olympiques, et puis derrière, notamment les championnats du monde de cyclisme qui vont arriver, qui ont été obtenus en Haute-Savoie, etc. Et derrière, ça permet à la fois de réutiliser parfois certains équipements sportifs qui ont été créés pour les Jeux, mais pas uniquement. En Haute-Savoie, en ce moment, il y a tout un débat sur la création d'un vélodrome qui va coûter très cher, qui va être utilisé uniquement pour ces championnats du monde. Et donc, toute la question, c'est de savoir qui va payer, combien de temps on va devoir payer, est-ce que cet équipement il va être rentable, comment est-ce qu'il va être géré, par qui, etc. quoi. Donc c'est des vrais sujets qui devraient être mis en débat publiquement. Et pour l'instant, ces sujets-là, on doit bien l'avouer, échappent aux politiques sportives, et en tout cas à la démocratie participative, très clairement.
On pense aussi au débat sur les stations de sport d'hiver et sur la neige artificielle, etc.
On est exactement dans la même logique. Est-ce qu'il faut continuer à investir de l'argent public dans des stations qui, on le sait, vont ou risquent de fermer dans 10, 15 ans, qui pour certaines sont déjà en grande difficulté, et comment est-ce qu'on met en débat public ces questions-là. Et là, on voit bien que c'est plutôt les citoyens qui, en fait, se mobilisent, montent des collectifs et, en fait, imposent des débats. C'est-à-dire que, à mon avis, dans la démocratie participative, il y a deux démarches, c'est-à-dire soit des démarches qui sont vraiment mises en place par les élus, et inversement des dispositifs qui sont imposés par les citoyens eux-mêmes et qui mettent en débat public, en fait, voilà, des questions. Et là, en l'occurrence,
on appelle les mouvements sociaux, du coup.
On est à la limite des mouvements sociaux, hein, sur le ski, très clairement. Par exemple, à la Clusaz, cet automne, il y a eu une ZAD qui s'est implantée, et on est sur des mouvements de type zadiste, avec des mouvements d'occupation pour empêcher des aménagements, des retenues collinaires, etc. quoi.
Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut, en toute honnêteté, se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là.
Les mots d'Emmanuel Macron qui évoquent le mondial de football au Qatar devant les micros de BFM TV, c'était au mois de novembre 2022.
Comment se passe le dialogue avec... les tenants de l'inusable thèse « le sport est apolitique », alors qu'on voit bien, le Qatar en était un exemple récent, la Coupe du Monde de foot au Qatar. Comment est-ce qu'on peut lancer des débats si la parole est limitée ou interdite sur certains sujets comme les droits humains, l'impact environnemental, la situation très inégalitaire entre les sportifs et les sportives, le racisme, qu'est-ce que j'oublie, le dopage, l'argent?
Oui, je crois que là aussi c'est un vrai sujet, Et en même temps, le mouvement sportif n'est pas étranger à cette représentation du sport apolitique, c'est-à-dire que les grandes fédérations dominantes, etc., se sont structurées sur le modèle de l'apolitisme, alors qu'en réalité, elles ne sont pas apolitiques, mais elles ont tout le temps, dans leur discours, dans les valeurs qu'elles ont mis en avant, que ce soit le mouvement olympique ou le mouvement fédéral, elles ont beaucoup mis en avant ce côté apolitique du sport, qui est bien évidemment une illusion. Donc, ce n'est pas si évident que ça si aujourd'hui, ce discours est si ancré, y compris parfois chez les sportifs eux-mêmes. Et donc là, on voit bien certaines déclarations qui, encore aujourd'hui, considèrent que le sport est apolitique, sont assez déconnectées, en fait, de certains enjeux que vous avez très bien listés, qui relèvent clairement de la politique. Le sport, en tant que fait social, est clairement politique.
Christian.
J'ai envie de ne pas terminer l'émission sans poser la question que j'ai en tête au moment où on parle. La Fédération Française de Football, c'est la caricature d'une institution qui ignore totalement la démocratie?
Je pense que c'est pas spécifique à la Fédération Française de Football, c'est-à-dire que...
Des noms.
Non, mais je pense que les fédérations ont toutes des difficultés, on va dire, avec l'implication des pratiquants dans leur mode de fonctionnement quotidien. Et il y a eu une vraie rupture, c'est-à-dire que les fédérations sont l'émanation des sportifs, mais en réalité, il y a une coupure qui s'est instaurée, qui s'est mise en place avec les pratiquants et les licenciés de base. Et cette coupure, elle est difficile c'est difficile d'en sortir, en fait, de cette logique-là.
Le fait que les fédérations aient couvertes un certain nombre d'agissements, par exemple de harcèlement, d'agression sexuelle, ça n'a pas non plus contribué à renforcer leur légitimité.
Tout à fait, très clairement, ça ne renforce pas leur légitimité et ça pose aussi la question de leur contrôle, parce que quand on parle de les fédérations, il faut quand même le rappeler, ce sont des fédérations qui sont reconnues d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elles elles mettent en œuvre des missions de service public. Donc, à la fois, il y a la façon dont les fédérations fonctionnent qui devrait être peut-être repensée, revue pour effectivement éviter qu'on ait des présidents qui soient élus quasiment à vie, ou en tout cas qu'il y ait des mandats très 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 longs, favoriser la place des femmes dans ces instances. Alors les statuts ont un petit peu évolué, mais on le voit bien, on a encore peu de présidentes de grandes fédérations qui sont des femmes. Je pense que ça pose la question effectivement du contrôle de ces fédérations par l'État.
Via le ministère des Sports.
Via le ministère des Sports, d'accord. Tout à fait, oui, tout à fait.
C'est ce qu'il faut souhaiter. Johan Dreck, merci infiniment. Je rappelle que vous avez dirigé l'essai Sport, démocratie participative et concertation qui a été publié aux presses universitaires de Rennes et qui coûte 20 €. Merci beaucoup. Merci à Christian Lebar, merci à Lucie Lois pour notre réalisatrice. Et rendez-vous prochainement, toujours sur Canal B, pour Chercheurs en ville.